Devant mon poste de télé, je les vois me raconter des salades. Disent que la Terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en.
Yes, we can.
Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire, où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre, qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons le bien, faisons pas les choses à moitié. Vu que de façon on va tous crever, un seul objectif en tête.
Faisons l'amour à la terre, des tonnes de pétrole dans la mer, du CO2 dans l'atmosphère et du phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert?
Niquons la planète,
niquons la planète,
niquons la planète, niquons la planète.
Fais le mur à la terre,
niquons la planète.
En tout cas, c'est comme un bilan, niquons la planète.
Et tant qu'à faire, faisons le bien, faisons pas les choses à moitié.
Niquons la planète,
vu que de façon on va tous crever.
Niquons la planète,
un seul objectif en tête.
Niquons la planète,
niquons la planète,
parce que c'est ma raison d'être.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Tchernobyl,
joyeux anniversaire.
Bienvenue sur...
Bienvenue à l'anniversaire de Tchernobyl. Non.
25 ans après.
C'est quand même 25 années après le désastre de Tchernobyl. Et nous sommes Zoom Écologie sur 106.3 Radio FPP. Le jeudi soir, c'est le Zoom Écologie, c'est l'émission de Zoom Écologie. Et le dernier jeudi, c'est toujours la bande à Bébert qui anime. Donc, on est tous là. Et il y a Elise, il y a Flo, il y a Johan, Gralette, Clément, Cyril et moi, Rebecca. Et puis, donc, on a une émission plein de petits cadeaux pour Tchernobyl.
Radioactif.
Bien sûr, radioactif. Et toutes les actualités qu'on a dénichées pour vous. Donc, on va commencer avec un petit apéro presse. Donc, qu'est-ce qui se passe là dans le nucléaire aujourd'hui et partout sur la planète?
Tout va bien. Hein. Tout se passe bien. Il n'y a rien qui se passe. Non, il n'y a rien. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose.
Une catastrophe naturelle.
Oui, oui, forcément, il y a eu un tremblement de terre, tout ça. Il y a... Bon, voilà, mais sinon tout va bien. Hein.
Il y a eu un accident à Disneyland, si.
Ah oui, si, ouais, oui. Ça d'ailleurs, c'est peut-être plus problématique. Hein. Je sais pas ce qui va se passer pour l'avenir à cause de ça, d'ailleurs. Bref. Hein, comme d'habitude, les médias détournent l'attention et on a quelques infos. Là, c'est bien parce qu'on a des infos, des vraies infos qui circulent sur le nucléaire en France. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et notamment sur Fukushima et Tchernobyl. Et notamment, hier, il y avait une petite, un débat qui s'intitulait Tchernobyl à Fukushima, 25 ans après, avec trois intervenants très intéressants, le professeur Bandajewski, Michèle Rivasi, qui est la fondatrice de la CRIRAD, et Roland Desbordes, qui est un intervenant président de la CRIRAD. Et donc le professeur Bandajewski, c'est quelqu'un qui se bat depuis 25 ans pour faire reconnaître la situation de la population à Tchernobyl. Et malheureusement, il était très 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 en colère à ce débat parce qu'il y a l'oubli qui commence à faire des ravages. Et lui est particulièrement touché par l'état médical de la population locale. Et 25 ans après, c'est toujours la fête, bien sûr.
Il faut préciser que ce monsieur a fait beaucoup de prison pour avoir dénoncé certaines choses.
Effectivement,
qu'il
oui.
Il est sorti récemment quand même. Et qu'effectivement, il se bat au quotidien pour
c'est
faire reconnaître les ravages de Tchernobyl.
C'est
le pendant gentil du professeur Tchernow, en fait, un peu. Quoi.
Voilà,
c'est
en
ça,
gros.
C'est le gentil scientifique.
Et ce monsieur, c'est un véritable...
l'orphelin.
Un véritable héros, hein, parce que son travail que vous pouvez retrouver sur Tchernobyl-today.org risque d'être prépondérant pour notamment les Japonais aussi, parce qu'il y a quand même un petit problème toujours à Fukushima. Et donc dans cette conférence, on a pu apprendre que Tchernobyl, c'est la fête. Et c'est vraiment la fête, hein. On dépense des millions, on invite des tas de gens, y a de la lumière même la nuit, l'activité, une boîte de nuit qui s'appelle le sarcophage, et qui est un peu fissurée et qui prend l'eau et qui nécessite des réparations. Bref, là-bas, c'était le point d'ailleurs de Michèle Rivasi qui était assez édifiant et qui nous annonçait que l'Europe a fait des investissements de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros qui étaient extraordinairement peu efficaces, sachant qu'il y a eu énormément de bâtiments qui ont été construits pour le stockage de combustible irradié parce que les centrales 1, 2, 3... sur place fonctionnait toujours jusqu'en les années 90. Et bien sûr, ces bâtiments n'ont pas été utilisés. Donc vous avez des bâtiments neufs, tout bien installés, impeccables, mais non utilisés parce que soit ce sont des centres de stockage trop petits pour le combustible présent, donc on ne peut pas le mettre dedans, soit parce qu'il n'y a pas les autorisations données par l'Ukraine. Bref, c'est un bordel monstre, une dépense formidable pour rien. Et c'est contaminé, c'est toujours contaminé. Et on entend parler du fameux nouveau sarcophage qui doit recouvrir l'ancien sarcophage qui coûte une fortune, qui est de l'ordre du milliard d'euros. Et là aussi, c'est la fête. D'ailleurs, a été soulevé le problème de la justification réelle de ce sarcophage, de ce nouveau sarcophage, qui c'est pose des questions.
C'est pour quelle centrale ?
Tchernobyl.
Ah,
c'était pour Sarko, moi.
C'est pour manger Sarko.
C'est une revue. Ouais.
Est-ce que ça suffira un sarcophage pour Sarko ? Je ne sais pas. Notre VRP du nucléaire devrait se rendre là-bas justement pour se rendre compte, mais c'est assez catastrophique au niveau des dépenses inutiles faites là-bas et du manque d'efficacité vis-à-vis de la population locale qui reste dans une situation pas bonne. Et je terminerai là-dessus sur les infos sur Fukushima qui nous ont été données aussi par un petit point de vue de la part de Roland Desbordes qui nous a fait un peu un général aussi sur les câbles. Au final, en fait, ça n'a pas avancé des masses, hein, on n'avance pas grand-chose, c'est toujours sympathique, tout va bien, hein, il n'y a pas de problème. Et quoi qu'il arrive, on continuera avec l'atome. Et d'ailleurs, on continue à donner quelques atomes gratuits à la nature avec des relâchements de vapeur radioactive à Fukushima. C'est toujours le bordel là-bas aussi, hein, parce que là, on n'a pas un seul réacteur, mais quatre, enfin trois plus une piscine olympique. Si vous voulez prendre quelques couleurs là-bas, c'est sympa. Elle boue en ce moment, elle est fissurée, donc on a des petits soucis. Oh, tout va bien, hein. Les bâtiments supportent plus la charge d'eau, s'ils n'ont pas été construits pour ça, pour recevoir autant de poids d'eau lié au refroidissement. Il y a des réactions en chaîne qui se passent de temps en temps dans les différents réacteurs, ça bouge dans tous les coins. Et ils commencent à déblayer, ils ont trouvé des débris de l'ordre de 300 millisieverts ou 900 millisieverts qui traînent de par là sur le site, voire même éloignés du site. Bref, c'est la fête totale, l'atome, c'est la joie, et voyons la suite, quoi.
Moi, en fait, j'avais vu une vidéo sur Internet où il y avait un mec qui s'appelle Alexandre, un français qui parle en anglais, il avait un super accent français.
Oui.
Et justement, il habite donc
furieux parce que j'avais pas d'infos.
Voilà, il disait, il montrait la télévision et puis il montrait une émission de variété avec qui il raconte des bêtises, un peu comme ce qu'on voit ici aussi. Et puis il dit voilà, en gros, ils ont une centrale en moins de 200 km qui vient de péter et c'est ça qu'on leur montre, on les informe pas vraiment et donc t'es assez furax. Et après, j'ai vu une deuxième vidéo où là, en fait, c'était assez affectif comment il parlait, hein, parce que c'est pas un scientifique ou des trucs comme ça, quoi, ce mec-là.
Non, c'est très intéressant d'ailleurs comme manière de réaction.
Ouais, c'est une réaction spontanée, je dirais. Et il avait fait une deuxième vidéo où, en gros, là, il parlait un peu, en fait, aux pros nucléaires, et donc il disait que, en fait, les gens comme lui, on les appelle les hystériques, parce qu'il était assez furax par rapport à ça. Et après, il a dit, voilà, il y a d'autres catégories, c'est ceux qui, les minimalistes, donc ceux qui disent, oui, bon, en gros, c'est vrai que c'est grave, mais pas tellement.
Oui.
Puis il dit, la troisième catégorie, c'est les pro-nucléaires. Et donc, il a invité, donc, en parlant pro-nucléaire, il a dit, bon, bah, vu que moi, je suis hystérique, on fait un pari, donc, message pour les pro-nucléaires, vous pouvez donc venir à Fukushima.
Oui, ils cherchent du monde.
Voilà, ils vous font même le défi pour les pro-nucléaires, hein, parce qu'ils sont pour le nucléaire, de venir à Fukushima et de rester au moins deux jours là. Voilà. Et puis, bon, il répond à la question lui-même, il dit, bah non, vous ne viendrez pas, parce que vous savez très bien que vous allez crever en deux jours si vous restez à Fukushima.
Ça évitera d'envoyer des mendiants chopés par la mafia japonaise. Locale,
pas crever, ils vont attraper le cancer dans 10 ans, etc.
Mais non, tout va bien, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de radioactivité, tout va bien. Il y avait déjà une question avant qu'on commence l'émission. Rebecca, tu avais une question sur l'histoire des épinards.
Oui, parce que bon, j'avais la chance de récupérer une grande quantité d'épinards d'un AMAP local et je voulais les partager avec tous mes amis, mes voisins. Il y en a un qui m'a dit oh là là, mais ma copine qui est un peu branchée radioactivité, elle est militante anti-nucléaire, elle a dit qu'attention, parce que les épinards, c'est un légume qui absorbe facilement la radioactivité. Est-ce que, et du coup, je me suis posé la question, est-ce que ici en France, est-ce que c'est possible qu'il y ait eu des retombées de radioactivité par les fameux nuages qui circulent sur la planète? Est-ce que c'est possible qu'on a des légumes ici en France d'origine française qui peuvent être contaminés?
Oui.
Juste pour la petite parano du jour.
Mais c'est pas parano, c'est vrai que il n'y a pas de risque en France, il faut le répéter, parce qu'il n'y a pas raison de... Mais on est contaminé, hein. Le nuage il est partout maintenant, on le panache, mais à des degrés de concentration différents. Nous on est très loin et en plus les vents ne sont pas dans notre direction. Et donc la contamination est faible, mais ça continue à augmenter. La concentration continue parce qu'il y a toujours des relâchements qui se font à Fukushima. La situation n'est pas gérée, n'est pas stabilisée. Et oui, vas-y, Ralph, vas-y.
Oui, en fait, moi j'ai vu la CRIRAD qui a fait une personne de CRIRAD qui parlait justement à ce niveau-là. Il disait qu'actuellement, par rapport au nuage de Tchernobyl, quand il est passé, l'alimentation et en général, le taux de radioactivité qui est dedans n'est pas assez dangereux, sauf à l'exception donc, de quelques légumes, dont surtout les champignons.
Donc
les champignons, et là il y a des teneurs de radioactivité qui sont au-dessus justement un peu de cette petite limite-là, si on en mange beaucoup et tout ça.
Et où ça?
Enfin, ils disaient pas que si on en mange beaucoup, mais en tout cas c'était le seuil qui était au-dessus.
Pas en France, pour l'instant.
J'ai vu ça comme ça.
Pas pour l'instant, je peux pas dire maintenant parce que si dans l'avenir ça risque pas de. Parce que ça baisse ça baisse et ça baisse pas, parce que tant que Fukushima n'est pas fini d'être maîtrisé, et en plus on est dans une nouvelle situation d'instabilité, on peut pas dire que les concentrations vont pas diminuer. Par contre...
Juste, le gars de la CRIRAD, il parlait du nuage de Tchernobyl. C'est-à-dire que c'est les restes de Tchernobyl aujourd'hui.
Il reste, oui, effectivement.
Il paraît ça, pas par rapport à Fukushima, au contraire.
Alors, il y a les champignons, les épinards, tout ce qui est plantes ou légumes à feuilles larges. Donc ça a tendance à recevoir l'eau contaminée plus facilement, parce que la pollution radioactive dans l'air est ramenée au sol par la pluie, donc c'est ça le problème. Ce qui pose le plus problème, c'est les Américains. Les Américains, en ce moment, ils ont une concentration de césium, d'iode, etc., qui est assez élevée sur leur côte est et sur la côte ouest, pardon, enfin la côte californienne. Excusez-moi. Et donc, eux, c'est un véritable problème, à point où ils n'ont plus beaucoup d'infos. Ils font des mesures par laboratoire privé énormément pour justement définir le vrai du faux. Et j'ai un chiffre qui est intéressant à savoir. Au Japon, à 100 km de la centrale, à Ibaraki, on trouve des épinards avec 50 000 becquerels par kilo. Alors là, ils ne sont pas mangeables, c'est clair. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Au Japon, c'est une catastrophe.
Moi, je comprends pas trop les mesures entre les becquerels et les je sais pas quoi.
Bah, becquerel, en gros, c'est une désintégration par seconde. Celle qui nous intéresse le plus, pour être rapide, c'est le microsievert par heure. C'est ce qui est ramené les conséquences de la radiation sur un corps, un organe, l'aspect biologique en fait.
Le chiffre où là ça devient dangereux, c'est combien par exemple?
Ah, c'est pas difficile à déterminer, ça dépend du type de radioélément, du type de contamination, de ce qu'on faisait à ce moment-là. On peut pas. C'est pour ça que c'est compliqué avec le nucléaire, c'est qu'on peut pas dire à quel moment c'est dangereux. L'iode 131, c'est effectivement le plus dangereux. Dans une région de environ 30 à 100 km. 30, oui, c'est certain. Là, il faut prendre les pilules d'iode quand le gouvernement a l'honnêteté de dire qu'il faut le prendre à temps. C'est ça le problème. Au Japon, ça c'est
il
pas bien fait.
Il vaut mieux se casser.
Mais ça sert justement à éviter de s'attirer, parce qu'on s'attire très vite la thyroïde avec l'iode 131. Donc c'est pour éviter de saturer la thyroïde avec un radioélément. C'est très efficace.
Ça protège la thyroïde, mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres...
Et c'est temporaire.
D'autres problèmes.
Exactement. Quoi, donc quand on prend ça et qu'on est dans la zone des 30 km, par exemple, c'est temporaire et il faut évacuer par la suite. Mais bon, ça c'est à prendre en compte sur le moment, et surtout à être... C'est des choses qui doivent être suivies par les officiels ou par des gens qui savent. Donc en France, on commence à avoir un doute justement sur la gestion d'une crise nucléaire en France, comment ça se ferait. Au Japon, c'est pas terrible, c'est pas du tout terrible. D'ailleurs, il y a un appel qui s'appelle l'appel de Fukushima, vous vous trouvez sur le net, qui demande à reprendre le contrôle de la situation par les citoyens. Et c'est très important, parce qu'il y a véritablement une mainmise du privé sur la gestion de la catastrophe. Et c'est pas bon. Hein. Il y a des relâchements qui se font. C'est une catastrophe même. Donc voilà.
Bah là, en parlant de catastrophe, moi j'ai regardé un petit peu ce qu'il disait dans un... dans un journal mensuel satirique que j'ai découvert chez mon marchand de journaux, qui s'appelle Zélium, qui est un mensuel un petit peu dans la lignée de Cine Hebdo. Et donc, ce que j'ignorais, c'est que le 27 décembre 1999, on était à deux doigts, donc ça c'est une interview de Hervé Kempf, qui nous dit qu'on était à deux doigts d'un très grave accident à la centrale du Blé, en France, où une inondation a mis hors service des pompes essentielles à la sécurité de la centrale. Donc ça, moi, je l'ignorais. Donc j'ai regardé un petit peu ce que disait ce journal au niveau du nucléaire. Donc, quand tout à l'heure tu parlais du démantèlement de Tchernobyl, voilà, il y a un petit article sur justement le démantèlement des centrales nucléaires en France. Donc, il y en a 9 qui sont arrêtées à ce jour. Donc là, il y a un article qui prend le temps de parler de la centrale de Brennilis, donc qui a été mise en service en 1966, arrêtée en 85. Et dont le démantèlement officiel a commencé en 96, soit 10 ans plus tard. Donc le cœur du réacteur représente 70 tonnes hautement radioactives. Donc il a été enfoui sous un sarcophage de béton mais il reste 67 000 tonnes de déchets et gravats à évacuer. Donc il y a 8 autres centrales qui, elles, sont beaucoup plus compliquées à démanteler. Donc là, on cite notamment Chinon, Saint-Laurent-des-Eaux, Chouze, sur Phoenix à Crémalville. Donc là, il y a un petit chiffre. La Cour des comptes, en 2005, évalue à 482 millions d'euros l'ardoise du démantèlement, soit 20 fois plus que l'estimation officielle des experts de la commission gouvernementale.
Oui. Et sachant qu'il faut absolument éviter, et là on a un très gros risque, qu'il faut absolument éviter la diffusion de radioéléments dans la vie courante, dans l'environnement, et que le démantèlement des centrales va générer une quantité phénoménale de déchets, et il y a une très très forte volonté du secteur industriel nucléaire de se débarrasser par le principe de dilution. Hein, comme ce sont des radioéléments à vie longue qui dépassent largement l'espérance de vie humaine, on se met dans une situation qui n'est pas claire du tout.
Voilà. Donc là, c'est un problème vraiment pour le démantèlement et ce qu'on va faire de ces déchets, et puis le coût que ça représente. Et il y a aussi un autre article que j'ai trouvé assez intéressant, qui s'appelle « Le nucléaire, prix de tremblement », qui nous montre que... L'auteur interroge Stéphane Lhomme, donc qui a fondé l'Observatoire du nucléaire sur EDF et les données sismiques, qui, selon lesquelles on impose de faire des travaux ou non aux centrales. Et donc lui, il annonce que EDF a falsifié des données sismiques pour économiser sur la sûreté. Donc EDF a redéfini à sa manière des zones sismiques afin de ne pas avoir à tenir compte de certaines données qui auraient amené à renforcer des centrales. Donc des données dont la prise en compte aurait entraîné de coûteux travaux de remise à niveau. Et en fin 2002, EDF a estimé la facture à 1,9 milliard d'euros, donc une facture de travaux. Et donc c'est une enveloppe dont, bon là je cite, hein, une enveloppe dont l'électricien juge le coût prohibitif, qualifiant sa mise en œuvre d'impasse et certains travaux non réalisables. Et au bout du compte, derrière des considérations techniques, ça n'a pas été réalisé. Dans cet article, Stéphane Lhomme nous dit aussi qu'il y a eu un désaccord entre la façon de relever les données sismiques, donc entre EDF et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui a arbitré donc ce désaccord et a donné raison à EDF. Voilà. Et Stéphane Lhomme nous dit que si on prenait en compte les données de cet Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, qui est un organisme public, il y a plusieurs centrales qui fermeraient, donc, dont Fessenheim et Burget. Voilà, donc là c'est un petit peu inquiétant. Il nous parle aussi de l'annonce de Fillon de mettre en place un audit sur les différentes centrales. Donc lui nous dit qu'au moment où cet audit, où les résultats de l'audit seront connus, ce sera à peu près dans 6 mois. Donc d'ici là, l'émotion suscitée par Fukushima sera sûrement retombée. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est que c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui va faire cet audit. Or, c'est elle qui faisait déjà régulièrement des visites. Donc oui. Si jusque-là, elle disait qu'il n'y avait pas de soucis, c'est pas maintenant qu'elle va le dire qu'il y en a, parce que ce serait contrarier les résultats de ses précédentes visites.
Je peux souligner un fait.
Vas-y.
Rapidement, parce que c'est quand même exceptionnel, je pense. Roland Desbordes l'a souligné aussi. Il semble que l'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire, a eu un discours un petit peu différent, plus mesuré, on va dire ça, par rapport à la situation, qui a noté, parce que il y a quelque chose qui s'est passé. Et visiblement, je crois que même ils sont en désaccord avec les autres instituts, mais il y a quelque chose qui s'est passé à l'ASN. Donc il faut le souligner, il faut quand même bien reconnaître les choses, et il fallait le dire.
Voilà. D'accord. Et moi, je voulais juste dire un petit mot sur les animaux de Fukushima.
Ah oui, les pauvres animaux.
Parce qu'il y a deux journalistes qui sont partis au Japon pour mesurer avec un GIGR, enfin la radioactivité, tout ça. Un compteur GIGR. Et on voit plein d'animaux qui sont restés dans leur enclos, dans les fermes, des vaches qui sont en train de mourir de faim et de soif. Voilà, on voit par contre une image avec un troupeau de taureaux qui, lui, bah, vu qu'il est en liberté, il réussit à se débrouiller, à aller où l'herbe se trouve. C'est pareil, il y a plein de chiens qui sont encore avec le collier autour du cou et attachés au portail. Donc voilà, je trouve ça un peu triste pour eux, ils vont mourir tout seuls.
C'est assez glauque à voir. Je l'ai vu aussi à la vidéo sur Agoravox. Et c'est assez. Enfin, surtout sur les vaches. Hein.
J'ai une mauvaise nouvelle. On l'a appris hier, ils ont envoyé un contingent de militaires pour abattre tous les animaux.
Ouais, voilà. Parce que j'ai lu qu'ils allaient d'abord demander l'autorisation.
Ouais, c'est pas étonnant.
J'avais lu qu'ils allaient d'abord demander l'autorisation aux propriétaires avant d'euthanasier tous les animaux. Ah, mais là, si tu dis qu'ils envoyaient des militaires.
C'est une info qui circulait il y a un ou deux jours et comme ça pose un problème de salubrité.
C'est marrant comme terme d'euthanasie.
Et comme ils ont évacué la population, bah, les propriétaires peuvent pas répondre. Non,
et ils ont interdit la zone aussi.
Le problème. Ouais, ils ont interdit une certaine zone, mais ils n'ont pas évacué la zone qui, a priori, est vraiment contaminée. Ce qui aurait obligé à évacuer des millions de personnes. Sauf que bon, pour évacuer Tokyo, bah, c'est pas évident, quoi.
Oui,
peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas fait.
Ce qui était rigolo dans le reportage là, des deux journalistes japonais qui sont allés sur le terrain, c'est de voir qu'il y avait des meutes de chiens qui se sont constituées, mais avec des chiens complètement différents, de différentes races et tout. Ça fait vraiment des meutes, ils étaient là tous ensemble en train de chercher à manger ensemble et tout. Et voilà. Donc, comme quoi.
C'était peut-être une manif de chiens anti-nucléaires.
Voilà.
Qu'est-ce que t'en penses ?
Juste une petite dernière chose à rajouter. Tout à l'heure, quand t'as parlé de François Fillon, donc je change un peu de registre, là on est plus sur le nucléaire directement, mais. Sur le pétrole, donc pour justifier encore plus le nucléaire, on pourrait dire aussi, François Fillon donc, a annoncé que nous avons atteint le pic de pétrole en 2009.
Ah bah je ne l'ai pas vu passer.
Et ouais, mais pourtant. Hein.
Si François l'a dit, comme disait le professeur.
Ah, c'est pour ça qu'ils ont sauvé les 4x4.
Donc il a dit aussi plus. Que donc nous sommes face à une tendance lourde donc, d'augmentation des coûts de l'énergie. Et que du coup, nous avions atteint donc, le pic de pétrole en 2009.
Puis on verra tout à l'heure qu'il y a une intervention aussi, qu'il n'y a pas que le pic de pétrole qui a été atteint, voire il y a d'autres pics qui ont été même dépassés.
Ouais, j'en connais.
Donc,
je peux rien dire.
Et justement, donc, ça fait que c'est plus que Yves Cochet qui le dit, il y a quand même le Premier ministre qui officiellement l'a dit. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il a dit qu'il a été atteint en 2009, alors que l'Agence internationale de l'énergie dit que c'est en 2006. Bon, oui, il y connaît rien, ou ils ont d'autres informations qu'on n'a pas. Et du coup, il y a aussi une demande d'enquête, enfin une demande donc de précision à Matignon qui a été faite. Donc, affaire à suivre. Mais bon, ça, il a encore plus justifié la croissance économique, après, des choses comme ça. Enfin, c'est resté toujours dans le même registre, mais il l'a quand même dit. Et du coup, ça fait penser à un autre pic, justement, puisqu'on en parlait, le pic d'uranium. Et justement, j'ai vu sur l'encyclopédie, sur Internet, Wikipédia, que concernant donc, les réserves d'uranium, donc, les réserves donc, prouvées correspondent à 140 années de production, ce qui est donc un ordre de grandeur courant en matière de prospection minière, l'équilibre se faisant quand les conditions ne justifient pas un effort de prospection supplémentaire. Donc en gros, donc, selon l'Agence pour l'énergie nucléaire, il y a encore assez d'uranium pour répondre à la demande mondiale pendant au moins un siècle, à une condition près, c'est que cette demande n'augmente pas. Or, si aujourd'hui on atteint donc déjà un pic de pétrole, donc imaginons donc la consommation d'uranium aujourd'hui elle représente 5,8% de la production énergétique contre 33,2% donc pour le pétrole. Et si l'uranium donc vient à remplacer le pétrole, ça veut dire qu'on va diviser donc ce petit siècle par 6. Ce qui fait que, vu en gros ce qui se passe actuellement, ça serait ça. Donc on n'aurait que pour 17 à 24 ans de pétrole, d'uranium, de réserve d'uranium.
Heureusement, il y a le charbon.
Ah, il y a le charbon,
oui.
Ouais.
Bon,
qui est radioactif, hein, la vapeur de... Enfin, le charbon brûlé est radioactif. Hein. Enfin, c'est un truc que j'ai appris il n'y a pas très longtemps.
Non,
J'ai une info aussi qui me revient à l'esprit. Avant Fukushima, il y avait, je crois, environ 14 réacteurs qui étaient prévus en fabrication au Japon. Voilà. Bon, peut-être qu'on aura un petit peu plus de temps pour l'uranium, mais voilà. Bon. Et puis, il y en a beaucoup qui sont aussi en fabrication ou en Chine. Donc oui, effectivement, le pic risque d'être avancé largement.
Et en Inde aussi, il y a un projet de construire, je crois, 10 000 mégawatts, soit à peu près 6 EPR.
C'est
6
pas là où ils ont tiré sur les manifestants.
6 EPR, effectivement, dans l'ouest de l'Inde. Et il y a eu des manifestants qui ont été sévèrement réprimés avec au moins un mort à la clé. Soi-disant, les autorités n'ont pas pu faire autrement que de tirer sur la foule. Voilà, voilà comment on gère les manifestations en Inde. Et évidemment, c'est sur une zone sismique, donc ça pose la question de la réalisation dans les conditions actuelles avec Fukushima. Et évidemment, les paysans et toute la population indienne avaient complètement raison de se soulever face à ce projet commandité par Areva, EDF et le gouvernement français, et indien aussi.
Oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de pays où les populations sont quand même très très militants et nombreux à lutter contre le nucléaire, notamment en Allemagne. Il y avait 100 000 personnes qui ont manifesté vendredi, qui d'ailleurs ils manifestent tous les mois. En fait, c'est vraiment un véritable lutte qui marche. Et puis ça a l'air de quand même mettre pression sur le gouvernement. En Inde, ils ont moins de chance parce que ils sont plus sévèrement réprimés. Bon. D'ailleurs, il n'y a pas de manifestation prévue, là, sur l'antinucléaire en France, là
on en parlera dans le Digesplif tout à l'heure.
D'accord, mais juste en passant.
C'est samedi. C'est samedi, samedi 30, oui. À 15h à Bastille.
On va rappeler ça à la fin, parce que comme ça, vous pouvez vous mobiliser. Là, on va passer à une autre nouvelle, c'est donc au niveau des OGM. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant longtemps.
C'est une petite news en passant. Là, on vient de connaître une étude de chercheurs de l'université de Sherbrooke au Québec qui montre la présence de pesticides et de leurs résidus dans le sang de femmes, dont certaines enceintes. Voilà, donc c'est la première étude à mettre en évidence la présence de pesticides associés aux aliments génétiquement modifiés dans le sang de femmes enceintes, de fœtus et de femmes non enceintes. Donc comme quoi, on en garde des traces de ce qu'on mange. Donc là, je vous invite, pour connaître cette étude, à vous diriger vers l'association InfoGM. Donc voilà, vous pouvez les contacter. Donc là, je n'ai pas les contacts ni téléphoniques, ni email, ni le site, mais je vous fais confiance pour vous débrouiller. Donc InfoGM pour connaître cette étude. Voilà.
D'accord.
Pour les OGM.
Donc, est-ce que je pense que maintenant, on va passer à une rubrique... en fait, il y a notre envoyé très, très spécial qui va nous faire un petit reportage sur le contre-Grenelle.
Oui, parce que l'envoyé très, très spécial, en fait, il attendait de la musique, en fait, il me semble. Donc,
C'est vrai qu'on peut peut-être faire passer un petit peu de musique en attendant pour se détendre. Donc, je vous propose la valse de Copenhague.
Des hurlements de Léo.
Il nous avait pourtant promis. Ils ont dû oublier depuis. Il nous avait promis la lune et on écume leurs lacunes. Beau parterre de fleurs fanées et de la terre à ramasser. La lune, il nous avait promis, et voilà qu'on récolte un fruit. Salade de pommes empoisonnées au foutre de ses majestés. J'ai le sommet qui se réchauffe et de l'eau dans les poches. J'ai de l'air au rabais, les pieds secs à moitié. Comme de plus en plus proche de l'enfer du vrai. En balayant toute la paperasse, toute la paperasse. Quand assis autour de la table, nous sommes tant d'arbres à palabres, à faire semblant de tomber d'accord. Dans la nature sont tous les torts. dans la nature sont tous les torts. J'ai le sommeil qui se réchauffe et de l'eau dans les poches. J'ai de l'air au rabais, les pieds secs à moitié, comme de plus en plus proche de l'enfer du vrai. Pas avec un tel prétexte, tu me feras digérer ton texte. Ta belle prose aux lettres d'or, ton poème aux mille sabords. Tu vas m'en pendre encore combien, du traité en alexandrin, de la moralité mon cul, une leçon vue et revue. J'ai le sommet qui se réchauffe et de l'eau dans les poches. J'ai de l'air au rabais, les pieds secs à moitié, comme de plus en plus proche de l'enfer du vrai. Avant de baigner dans la crasse, finir par demander son reste en balayant toute la paperasse. Toute la paperasse. Quand assis autour de la table, nous sommes tant d'arbres à palabres, à faire semblant de tomber d'accord. Dans la nature sont tous les torts. Dans la nature sont tous les torts. J'ai le sommet qui se réchauffe et de l'eau dans les poches. J'ai de l'air au rabais, les pieds secs à moitié, comme de plus en plus proche de l'enfer du vrai. De l'enfer du vrai. L'enfer.
Voilà, c'était le Waltz de Copenhague des Hurlements de Léo. Donc maintenant, on va passer à, je vais passer la parole à Florian,
professeur.
Le professeur, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui va nous introduire son petit reportage sur le contre-Grenelle.
Oui, alors parce que donc, dans la bande à Bébert, on travaille aussi le week-end. Donc j'étais le samedi 2 avril, et oui, Clément, et j'étais à Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, c'est la banlieue un peu lointaine de Lyon. Pourquoi je me suis trouvé là-bas en fait le samedi 2 avril? Parce qu'il y avait organisé par le journal La Décroissance le contre-Grenelle numéro 3. Donc évidemment, hein, contre-Grenelle qui est le premier...
Encore plus méchant.
Encore plus méchant que le Grenelle, c'est le contre-Grenelle, et en plus c'est le numéro 3. Et donc en fait cette année, la thématique qui avait été choisie, c'était décroissance ou barbarie. Donc point d'interrogation. On a l'impression qu'en fait dans cette société, quand on entend les médias et quand on entend les politiciens, on a le choix entre croissance ou barbarie. Et donc justement, ce que propose l'ensemble des intervenants et notamment le journal des croissances, c'est pourquoi pas proposer une autre alternative, c'est décroissance au lieu de la barbarie croissance, quoi. Et donc sur l'ensemble des thématiques qui ont été abordées, l'idée c'était on pose une question en fait aux intervenants qui interviennent 10 minutes, notamment comment répondre face à l'effondrement énergétique, comment répondre face à la tyrannie technologique, à l'effondrement environnemental, à l'effondrement alimentaire, à l'effondrement social, à l'effondrement sanitaire, à l'effondrement et à la capitulation des médias, l'effondrement culturel. L'effondrement culturel, c'était deux intervenants, notamment Jean-Claude Besson-Girard et Jean-Luc Coudray, c'était très très intéressant. À l'effondrement psychique, à la menace contre la paix civile et les libertés, et face à la crise politique, qu'est-ce qu'on peut faire, comment répondre? Donc au lieu de discuter là pendant 10 minutes, un quart d'heure, ce que je vous propose, c'est directement de lancer le reportage, puisqu'en fait, il y avait un envoyé très spécial sur place. Cyril.
Croissance. Je suis heureux de vous accueillir pour ce troisième contre-Grenelle, organisé par le journal La Décroissance.
Donc salut la bande à Bébert, c'est professeur envoyé très très spécial pour Zoom Écologie et Radio Fréquence Paris Pluriel. Donc là je me trouve actuellement en fait à Vaux-en-Velin, donc on est le 2 avril 2011, pour le troisième contre-Grenelle, qui cette année traitera de la thématique décroissance ou barbarie. Donc la personne qu'on entend derrière moi, c'est Paul Ariès, hein, qui est politologue et également directeur de Sarcophage. Donc ce contre-grenelle numéro 3, qui est donc comme le disait Paul Ariès, organisé par le journal La Décroissance, traitera cette année notamment de la thématique de l'effondrement en fait des sociétés face notamment aux thématiques de la crise énergétique, mais également d'autres thématiques plus larges qui sont en cause, qui sont la conséquence en fait de cette crise énergétique, c'est-à-dire la crise alimentaire, mais également l'effondrement psychique, l'effondrement sanitaire, l'effondrement environnemental. Donc sur toute cette journée s'enchaînera des intervenants sur 10 minutes qui essayeront de répondre à ces thématiques afin de trouver des solutions pour lutter contre cet effondrement qui s'approche.
Car elle prouve que le système trouvera encore de quoi nous pourrir la vie pendant longtemps. Non, la planète ne souffre pas d'abord d'un manque de ressources, mais d'un scandale politique, celui qui consiste à ne pas satisfaire en priorité les besoins fondamentaux. C'est pourquoi le système choisit la stratégie du chaos, ce qui lui permet de gouverner par la peur. Cela le conduit à imposer l'idée que la barbarie à venir serait inéluctable, ce qui lui permet également d'imposer des solutions d'austérité avec le FMI et DSK, mais aussi des solutions autoritaires avec la remise en cause de la démocratie. La question n'est plus seulement de savoir quelle terre nous léguerons à nos enfants, mais aussi quels enfants nous laisserons sur cette planète ravagée, adaptée. Je voudrais, pour terminer, vous inciter à retrouver l'ensemble des intervenants à ce colloque dans l'ouvrage « Contre Grenelle 3, décroissance ou barbarie ». Je vous souhaite un très grand troisième contre Grenelle. Merci.
Parler de l'effondrement énergétique aujourd'hui.
Bon, bah voilà, c'est Johan qu'on entendait qui enchaînait derrière Paul Ariès. Eh oui, j'avais dit 3 minutes, hein, pas 3 minutes et 5 secondes. Donc voilà, donc là c'était le discours d'introduction en fait de Paul Ariès pour le lancement du contre-grenelle numéro 3 qui pose les bases justement des thématiques qui vont être abordées. J'ai pas mis tous les intervenants parce qu'en fait il faudrait une émission du coup de plusieurs heures. J'ai choisi deux intervenants, notamment là le premier qu'on va entendre là qui est Aurélien Cohen, qui est doctorant en fait en socio-anthropologie et qui travaille notamment sur la dimension anthropologique des crises énergétiques dans notre société actuelle.
Ça veut dire quoi anthropologie?
C'est anthropos, humain, l'étude des hommes en fait. Et donc il va présenter notamment, on lui posait la question que faire face à l'effondrement énergétique. Donc voilà, on écoute Aurélien Cohen.
Parler de l'effondrement énergétique aujourd'hui, après 3 semaines de crise à Fukushima, revêt un sens un petit peu particulier, puisque cette crise viendrait confirmer la menace d'un effondrement énergétique. Là où l'épuisement des ressources nous paraît lointain, la menace se fait immédiate avec ces catastrophes nucléaires. Et puis, cette question de l'énergie a aussi, pour les décroissants, un sens un petit peu particulier, puisque c'est à partir de l'énergie que Nicolas Georgescu-Rogan a fondé les principes de sa bioéconomie, qui nous enseigne que le métabolisme industriel mondial agit sur le métabolisme naturel, que la dissipation des ressources énergétiques et matérielles ne se fait que dans un sens, qu'il est irréversible, et que donc l'accélération de cette dégradation dans laquelle nous vivons a pour cause le productivisme actuel. Qu'est-ce que l'effondrement énergétique? Nos sociétés semblent s'être convaincues que les crises faisaient partie de leur histoire. Nous allons voir que ce n'est pas parce qu'on reconnaît la crise dans laquelle nous vivons, les crises que nous traversons, que nous avons forcément en tête l'effondrement qui est une possibilité, un résultat possible de ces crises. Castoriadis, en 1980, disait quelque chose que Paul Ariès a dit il y a quelques minutes. La crise de l'énergie n'a de sens comme crise et n'est crise que par rapport au modèle présent de société. C'est cette société-ci qui a besoin chaque année de 10% de pétrole ou d'énergie en plus pour pouvoir continuer à tourner. Cela veut dire que la crise de l'énergie est en un sens crise de cette société.
Donc Aurélien Cohen nous montre lors de sa présentation que les sociétés n'ont pas forcément conscience de leur effondrement énergétique et qu'on est clairement confronté là à un souci de limite de la consommation d'énergie, limite des énergies et des ressources. Et donc il montre comment cette consommation de l'énergie stock finalement a été l'incarnation d'un projet social qui est le progrès et qu'aujourd'hui, en fin de compte, il est peut-être l'objet qui deviendra l'outil de destruction de la planète et donc du coup des sociétés. Donc je le laisse conclure.
La Chine a acheté 15% de la production d'uranium mondial. On a l'habitude de dire que les Chinois s'accaparent les ressources et que ça va nous poser un problème. Seulement 15%, c'est exactement ce que la France achète par an. Mais avec l'augmentation des besoins prévus avec la nucléarisation du monde pré-Fukushima, au rythme actuel, il ne reste même pas quelques dizaines d'années d'uranium. Le problème dans ce contexte, c'est donc pas celui de tel ou tel type d'énergie, d'ajouter quelques éoliennes ou de couvrir le Sahara de panneaux solaires, comme le veulent les projets gigantesques Desertec ou Transgreen, donc projets allemands et français. Le problème, c'est la persévérance dans un système énergétique qui refuse la notion même de limite à son expansion. Deléage notait déjà que les sociétés poussent jusqu'au bout les limites de leur système énergétique plutôt que d'en changer. Il est peut-être grand temps de réfléchir à changer ce système énergétique et à reposer, comme le disait Georges Skouroghen, sur le flux solaire plutôt que sur le stock fossile.
Qui aime Sarko et tous les malfaisants. Aurélien Cohen, hein. Et puis on a entendu juste le début de la chanson Nicolas Bertrand, si on a le temps on la passera à la fin, assez humoristique, plutôt saignant en plus avec l'actualité de notre Nicolas Hulot cette fois-ci, donc c'est assez intéressant. Donc là en fait Nicolas Cohen là, mettait en avant en fait la nécessité absolue de changer justement de modèle économique et de modèle énergétique en se basant notamment non plus sur le stock, sur l'énergie stock, mais sur l'énergie flux, hein, c'est-à-dire les énergies, notamment les ressources qui sont toutes liées au solaire, hein, que ce soit l'éolien, la biomasse, etc. Clément, tu avais un truc à ajouter là-dessus.
Je te vois. Renouvelable.
Voilà, exactement. Donc, sur le deuxième choix de l'intervenant, en fait, j'ai choisi d'enregistrer Philippe Bioux, qui est ingénieur, et qui a notamment sorti avec certains collègues à eux un bouquin qui notamment parle de d'autres pics, parce qu'on a parlé du pic de pétrole, le pic d'uranium de tout à l'heure, mais moi je fais référence à deux autres pics, notamment c'est les pics des métaux rares, qui sont pour certains disparus, hein. Les métaux rares, c'est toutes les personnes qui ont des téléphones, etc., en ont dans la poche, mais également la destruction des terres arables, donc il va le présenter assez bien. Donc c'est Philippe Bioux qui répond à la question de l'effondrement environnemental. Ciel.
Alors l'effondrement environnemental, c'est un certain nombre de facteurs, hein. Jared Diamond en a parlé, qui pourraient rendre notre planète localement ou globalement invivable pour l'humanité ou pour des grandes espèces, parce qu'on sait que les bactéries seront toujours là. Alors on pense évidemment au changement climatique, on pense à la pénurie énergétique, on pense évidemment à la destruction des espaces naturels, à la pollution globale, locale, des eaux, des sols, de l'air. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres facteurs, notamment deux dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est la destruction de la terre arable. On en parle peu, mais je vous renvoie aux ouvrages et aux travaux de Claude et Lydia Bourguignon, par exemple. Donc il faut savoir que... en un premier effet, c'est l'effet d'artificialisation. Hein. Donc en France, on a par exemple dans la décennie 1990 artificialisé, c'est-à-dire détruit de la terre arable et converti en parking, en route, en lotissement, etc. L'équivalent d'un département français. Hein. 1% du territoire y est passé. Ça continue depuis les années 2000 sur une tendance un petit peu plus faible, mais chaque année, on artificialise à peu près 80 000 hectares de terre arable. Donc c'est la capacité à se nourrir demain. Ensuite, bah, les terres arables elles-mêmes, il y a un taux d'érosion, hein, c'est-à-dire que nos pratiques d'agriculture intensive et la pratique du labour fait que bah, on perd 40 tonnes en moyenne en France de terres arables à l'hectare, hein, 40 tonnes. Donc c'est entre 10 et 100 tonnes selon les cultures, selon les endroits. Je vous passe les détails techniques, mais ça veut donc quand même dire que la durée de vie de nos sols est de 25 à 75 ans, hein, en France. Donc on est sur une... Le sol lui-même est utilisé aujourd'hui comme une ressource non renouvelable, comme le pétrole. Alors l'autre phénomène moins connu, bah, c'est celui sur lequel on s'est consacré dans l'ouvrage que nous avons écrit, donc, qui est les ressources non renouvelables métalliques. Hein. Alors il faut savoir que, bah, comme le disait Paul Valéry en 1931, le temps du monde fini commence. Bah, pour les métaux, le temps du monde fini a commencé lui aussi. Donc on a le pic de pétrole, mais dans l'ombre du pic du pétrole, du pic de gaz, du pic de charbon, on a aussi le pic métallique. Donc le pic de cuivre, de zinc, de plomb, de platine, je vous passe les détails. Tout recycler à cause des usages dispersifs. Hein, vous utilisez par exemple dans la peinture, on utilise des métaux, ben, on ne pourra pas recycler ça. Les alliages sont devenus compliqués, 3000 sortes d'alliages au nickel. Comment vous voulez organiser des filières pour recycler ça? Voilà, donc l'ensemble de ça, c'est ce que je voulais vous conclure, c'est qu'on a énormément de boucles de rétroaction positive, mais que c'est la chance aussi parce que ça marche dans l'autre sens. La rétroaction positive, c'est que si on se met à faire du bio, on aura besoin de moins d'engrais, donc moins d'énergie, etc. etc. Donc on n'est pas dans un gros paquebot qu'on va avoir du mal à bouger, on est en réalité dans une voiture survireuse. On tourne le volant et ça va tourner encore plus vite. On peut rentrer dans une logique qui, au lieu d'être l'effondrement d'aujourd'hui, il suffit d'inverser la machine à condition de gérer le social. Et donc le revenu universel sera sans doute un des points très importants, parce qu'il faudra pouvoir gérer les gens qui vont perdre leur emploi dans les industries les plus polluantes et dans les services qui ne servent à rien.
Voilà, je dirais plutôt à la place de Philippe qu'on est dans un vélo survireur, en fait, plutôt que sur une voiture. Mais voilà, hein, donc Philippe Biwix, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, qui présentait justement, notamment, donc il a mis en exergue notamment ces pics de métaux rares. D'ailleurs, la bande à bébé, on avait parlé il y a au moins 6 ou 7 mois, notamment sur un article justement sur la disparition des métaux rares. Donc voilà.
Ouais, j'avais une question. Alors la conférence se passait à Lyon. Qu'est-ce que tu en... Avec la détente qu'on peut trouver en province par rapport à Paris, et qu'est-ce que tu as comme ressenti vis-à-vis de cette conférence? Est-ce que ça a apporté quelque chose? Est-ce que ça t'a... Est-ce que ça a ouvert nouveaux horizons? Parce qu'on a le point de vue en Paris, mais là, en province, ça peut être différent, quoi. Un petit peu différent.
Bah, je ne sais pas s'il y a une... Alors, moi qui viens en plus de la province, qui me suis installé à Paris, je ne sais pas s'il y a une différence du fait, justement, de la situation géographique. Mais donc, effectivement, hein, c'était à Lyon, donc c'était un banlieue à Vaux-en-Velin, hein, dans la commune de Vaux-en-Velin, qui est la commune la plus pauvre, en fait, du département, puisque c'était symbolique, hein, c'était un choix politique d'aller là-bas, clairement. Moi, ce que j'ai eu, enfin, de la journée, donc sur l'ensemble de la journée, c'est vrai que les intervenants, c'était vraiment ultra intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'on soit partisan du concept de décroissance sur un certain nombre de thématiques, qu'on partage ou pas. Mis à part ça, c'était quand même intellectuellement intéressant, on va dire. Et il y a quand même eu une volonté à chaque fois des intervenants de présenter l'effondrement pour lequel ils étaient sollicités, l'effondrement de l'énergie, l'environnement, culturel, etc. Et puis d'apporter quand même des réponses, puisque en fait l'idée c'était qu'il y ait deux intervenants, un qui répondait à présenter l'effondrement, et l'autre qui présentait un peu que faire face à la crise, en fait, qui était liée à ça. Donc j'invite d'ailleurs tous les auditeurs de la bande à Bébert d'aller aller consulter, notamment, voire d'acheter le bouquin où il y a tous les articles, toutes les interventions, en fait, du contre-Grenelle numéro 3. Je pense qu'on le trouve sur le site du Pacte contre Hulot, je crois.
Il s'appelle comment, le bouquin ?
Contre-Grenelle 3, décroissance aux barbares, c'est le titre, hein, en fait, de la conférence. Donc voilà, et donc je finis, puisqu'il nous reste peu de temps, avec la bande à Bébert.
Aux éditions... Avec...
Alors, aux éditions...
Goliath,
ouais. Voilà. Où on voit un loup, en fait, déguisé en green is green, en greenwashing. Donc voilà. Et j'entends Raled hurler derrière la vitre. Et donc on va finir avec notamment l'intervention de nouveau de Paul Ariès qui conclut sur l'ensemble des intervenants et qui conclut pour clore le contre-Grenelle numéro 3, en espérant qu'il y en ait un. Généralement, ils le font tous les deux ans. Donc voilà. Donc après avoir montré que la croissance et le capitalisme vert n'étaient pas finalement la solution à la problématique des différentes crises, hein, qu'on en a pu voir, les crises énergétiques, culturelles, sanitaires, environnementales, le contre-Grenelle a permis de mettre en exergue que aussi les personnalités médiatiques et politiques finalement étaient en déphasage total avec la réalité écologique, économique et sociale, mais surtout humaine, hein, puisque c'est vraiment le sens des décroissances, c'est de mettre l'humain au centre des débats. Et donc je vous laisse de nouveau avec l'indécrottable Paul Ariès pour la conclusion du contre Grenelle ici à Vaux-en-Velin. Donc professeur envoyé très très spécial pour Fréquence Paris-Pyrénées et la bande à Bébert.
J'aimerais vous proposer au nom du journal La Décroissance d'adopter aujourd'hui solennellement un appel. Cet appel, c'est pas touche à l'humain, pas touche à l'humanité. Je vais donc vous lire cet appel, et cet appel est destiné à germer, cet appel est destiné à se multiplier à la fois en France et à l'étranger. Sarkozy veut faire de l'année 2011-2012 celle de l'application du Grenelle de l'environnement. Le système a choisi l'adaptation aux conséquences du réchauffement plutôt que de lutter contre ses causes en renonçant au dogme d'une croissance économique sans fin. Cette politique est réclamée par les puissances mondiales de l'argent et de la technoscience. Face à ces délires technoscientistes, nous disons de façon solennelle « pas touche à la planète ». Nous refusons le recours à la géo-ingénierie pour modifier artificiellement le climat. Nous refusons la fuite en avant dans tous les délires, comme les arbres OGM mangeurs de CO2, les puits de carbone, l'exploitation des gaz de schiste, la création d'un immense bouclier artificiel autour de la Terre, etc. Face à ces délires technoscientistes, nous disons de façon solennelle « pas touche à l'humanité ». Nous refusons le transhumanisme qui, faisant des adeptes à droite, à la Madeleine comme à gauche, Jacques Attali, programme le passage de l'homo sapiens au robot sapien et au soma sapien, cet individu augmenté artificiellement. Face à ces visées meurtrières, nous combattrons pour défendre une terre pour l'humanité, avec des traits d'union entre terre et pour l'humanité. Nous appelons tous les citoyens à signer notre appel, à assumer notre humanité, comme nous assumons la fragilité de la terre.
Qui aime Sarko et tous les malfaisants?
Nicolas Bertrand.
Qui vend des shampoings et même des cure-dents?
Le début de la chanson de Nicolas Bertrand. Et en fait, je voulais juste conclure en fait que toutes les interventions sont en vidéo sur le site du Pacte contre Hulot, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Et donc là, on finit avec le Digespif. Donc c'est parti, 30 secondes par intervention, c'est parti.
Alors l'agenda vite fait, donc sur les gaz et huiles de schiste, il y a un débat prochainement, donc le lundi 2 mai à 19h30 à l'espace Gendarme dans le 2e arrondissement, 17 rue Léopold Bellan au métro Sentier, avec une nouvelle projection Radio-Canada qui a fait une projection, enfin qui a fait un film sur les gaz de schiste pour compléter Gazland. Voilà.
Donc aussi donc le vendredi 29 avril, rendez-vous à 19h à la sortie du métro Concours, ligne 11, pour une action de désobéissance civile contre le système publicitaire de la part du collectif des déboulonneurs.
Merci. Et aussi la manif samedi 30 à 15h Bastille pour Tchernobyl.
Ah, bien sûr. Tchernobyl Day.
Allez-y, en profitez-en, il y en a d'autres là.
Il y en a une en tout cas à Saint-Quentin en Yvelines. Donc à Saint-Quentin en Yvelines, il y a donc à l'immeuble Edison, boulevard Vauban, à Guyoncourt exactement, je dirais. Et donc il y a une manifestation, donc un rassemblement de commémoration donc pour les victimes donc de Fukushima et de Tchernobyl, qui a lieu à 11h exactement ce jour-là. Et au même l'après-midi, il y a aussi donc une marche pour la transparence sur le nucléaire, place Bastille, devant l'opéra de 15h à 18h. Voilà pour le 30 avril. Et vite fait, puisque j'ai encore quelques secondes, le 7 mai, non, il y a aussi des actions donc, à Guyancourt et à Saint-Quentin-en-Yvelines. Dont une vélorution contre le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je vous invite donc à suivre ça sur velodrame.org.
Donc, on va terminer avec un petit musique.
Oui, alors la musique, en fait c'est une chanson à la gloire des Échos Tartuffes et notamment de son personnage emblématique qui est Nicolas Bertrand. Et donc, en fait, ils ont passé cette chanson en aparté, genre entre certaines interventions. Voilà, on entend fond d'écran, fond
sonore.
Donc voilà, donc je n'ai rien ajouté.
Si vous avez raté une partie de cette émission, il est rediffusé vendredi matin à 11h.
Disponible sur zoomecologie.net.
Voilà, c'est fini.
Au revoir. Ouais, comme dit Bébert,
salutations écologiques et solidaires.
Qui aime Sarko et tous les malfaisants?
Nicolas Bertrand.
Des shampoings et même des cure-dents.
Nicolas Bertrand.
Sauver la planète, c'est pour les commerçants.
Nicolas Bertrand.
Les journalistes l'adorent, surtout de morons.
Nicolas Bertrand. Nicolas Bertrand.
Avec Parisot et tous les possédants.
Nicolas Bertrand.
Le capitalisme vert, c'est vraiment dans le vent.
Nicolas Bertrand.
Avec l'écologie, on se fait plein d'argent.
Nicolas Bertrand.
Green is green, ça c'est un bon slogan.
Nicolas Bertrand. Nicolas Bertrand.